Et le journal de la rédaction, c'est donc avec vous, Audrey Dumain. Bonsoir.
Bonsoir, Jolie. L'escalade de la violence en Libye et l'appel urgent de l'ONU à une trêve provisoire, Tripoli lance une contre-offensive contre le maréchal Haftar. Le Rwanda unit comme une famille 25 ans après le génocide des Tutsis. Voilà les mots du président rwandais alors que le pays se recueille aujourd'hui. 800 000 personnes sont mortes lors du massacre en 1994. Dernière ligne droite avant les législatives en Israël et Benjamin Netanyahou passe à l'offensive. Le scrutin face à son adversaire centriste, Benny Gantz, s'annonce très serré. Qui est ce nouveau rival? Portrait de notre envoyé spécial Valérie Crova. Dans ce journal également, des milliers d'Algériens ou de Français d'origine algérienne dans la rue à Paris. Ils réclament un vrai changement de régime après la démission de Bouteflika. L'appel urgent de l'ONU à une trêve provisoire pour permettre d'évacuer blessés et civils en Libye. Les affrontements se poursuivent aujourd'hui. L'armée du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, affirme avoir mené un premier bombardement en banlieue de la capitale. Côté ouest, les troupes fidèles au gouvernement de Tripoli se lancent dans une contre-offensive. L'armée américaine a annoncé le retrait provisoire de ses militaires en Libye. Maureen Mercier, vous vous rendez régulièrement dans le pays. Vous êtes en contact avec des gens sur place. Les informations sont confuses, mais une certitude, c'est l'escalade de la violence.
On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait qui croire. Parole d'un habitant du sud de la capitale. Oui, il confirme de lourds bruits d'explosions et la présence de victimes. Quant à savoir quel camp prend l'avantage, celui de l'homme fort de l'est du pays, le général Haftar, ou celui de Sarraj, le chef du gouvernement de Tripoli soutenu par la communauté internationale, impossible de le savoir. Les Libyens sont sûrs d'une seule chose, c'est qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. La guerre d'information a envahi les réseaux sociaux et les télévisions depuis déjà bien longtemps. Le général Haftar prétend mener une guerre contre le terrorisme sur la partie ouest du pays. Alors qu'à l'ouest, on affirme que le général veut s'imposer pour instaurer une dictature militaire. Depuis toujours, le général assure être à la tête d'une armée digne de ce nom, organisée et puissante. Dans les faits, tout comme celle du gouvernement Sarraj, son armée ressemble bien plus à une addition de brigades. En plus de la propagande qui règne, la confusion sur le déroulement des combats s'explique aussi par ce morcellement des troupes. Celui qui pense avoir compris la Libye a mal été informé. Les mots, il y a quelques jours, de Hassan Salamé, chef de la mission des Nations Unis pour la Libye. Une chose est sûre, on peut affirmer que l'escalade a bel et bien démarré.
Et au moins 21 personnes sont mortes depuis le début de l'offensive du camp Haftar. Au Soudan, les manifestants appellent l'armée soudanaise à les soutenir dans leur opposition au président El-Béchir. Les protestations qui ont commencé en décembre ont été jusqu'à présent dispersées par les services de sécurité, mais pas par l'armée. Des milliers d'hommes et de femmes qui ont tenu samedi le plus grand rassemblement jamais organisé depuis le début de la contestation. Contestation lancée au départ suite à la hausse du prix du pain. Le Soudan est confronté à une inflation de près de 70% par an et fait face à un grave déficit en devises étrangères. Le Rwanda, plus uni que jamais par la force de son peuple, ce sont les mots du président rwandais Paul Kagame. Le pays commémore aujourd'hui les 25 ans du génocide des Tutsis et des Hutus modérés qui a fait plus de 800 000 morts au printemps 1994. Jean-Pierre Monza, vous avez donc assisté à ces commémorations où une vingtaine de délégations internationales sont sur place.
Pas un orateur n'a manqué de rendre un hommage très appuyé au président du Rwanda. Pas un mot sur les critiques dont son régime est l'objet de la part des défenseurs des droits de l'homme. Mais ça n'était sans doute pas le jour. Paul Kagame a eu droit aux éloges les plus marqués de la part de ses invités. Le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, premier d'entre eux à parler, a salué la vision du dirigeant rwandais, leadership, rigueur et courage remarquable, a-t-il dit. Il dit aussi son admiration face au chemin parcouru depuis 1994. Et c'est aussi ce qu'a dit Jean-Claude Juncker pour le président de la Commission européenne. Le Rwanda est un exemple vivant de renaissance et de remontée vers la lumière. Et puis bien sûr, il y a eu le Premier ministre belge. Au nom de l'ancienne puissance coloniale, Charles Michel dit son admiration pour la résilience du Rwanda. Mais surtout, il reformule les excuses présentées par son prédécesseur en 2000. Guy Verhofstadt avait en effet reconnu, je cite, « le cortège de négligence, d'incompétence et de faute qui avait rendu le génocide possible ».
Et à l'issue de la cérémonie, une marche du souvenir a eu lieu entre le Parlement et le stade de Kigali. Le stade de Kigali où doit avoir lieu une soirée spéciale.
Oui, le moment fort de la soirée, c'est la cérémonie au stade Amahoro de Kigali. 30 000 personnes pour entendre des rescapés témoigner de leur douleur, toujours très présente aujourd'hui, même une génération plus tard. D'ailleurs, ce moment est tellement intense que des psychothérapeutes sont là pour les aider à gérer l'émotion qui les submerge. Et puis, les noms de 100 victimes seront lus, 100 noms issus de familles entièrement décimées dans les massacres. Une liste macabre lue par 25 jeunes, 25 comme 25 ans, une génération plus tard, et jeune parce que 60% de la population de ce pays est née après 94. D'ailleurs, la jeunesse, c'est le thème du spectacle qui viendra clôturer la soirée, un spectacle sur le thème du lien qui unit les générations entre elles, une fin de journée comme un écho au discours d'un responsable rwandais ce matin qui disait qu'aujourd'hui, 7 avril, il n'y avait pas 13 millions d'habitants au Rwanda, mais 14 si l'on rajoute le million de victimes que l'on n'oublie pas.
Et Emmanuel Macron, qui n'a pas fait le déplacement, a annoncé ce matin vouloir faire du 7 avril une journée de commémoration du génocide Tutsi. Benjamin Netanyahou à l'attaque à l'approche des élections législatives en Israël. Il affirme prévoir d'annexer les colonies situées en Cisjordanie occupée en cas de victoire mardi. Netanyahou est en concurrence avec les partis d'extrême droite partisans de l'annexion pour obtenir les suffrages des électeurs qui sont contre la cession de terres aux Palestiniens. Une prise de position jugée irresponsable par son principal adversaire Benny Gantz. Benny Gantz qui était hier en meeting dans la banlieue de Tel Aviv devant ses militants. Reportage de notre envoyé spécial Valérie Crova.
En jean et chemise blanche, Benny Gantz cultive une allure décontractée. Cet ancien chef d'état-major de Tsahal est un nouveau venu en politique. Avec son alliance bleu-blanc, les deux couleurs du drapeau israélien, il veut séduire les électeurs de la droite classique, lassés de Benjamin Netanyahou.
J'ai voté toute ma vie pour le Likoud.
Et vous avez décidé de soutenir Benny Gantz ?
Oui, il y a 3 semaines. Parce que notre Premier ministre est un escroc. Il se prend pratiquement pour Louis XIV.
Le roi, c'est moi.
On n'est pas une monarchie, on est une démocratie.
Son discours se veut rassembleur face au Premier ministre sortant, accusé d'attiser la haine entre les communautés arabes et israéliennes.
Mes enfants disent, si Bibi va maintenant gagner, on va partir en Australie. Je dis non.
Benny Gantz, il est à droite, il est à gauche, il est au centre.
Non, on est au centre. Le principe, on veut mettre tout Israël ensemble.
Pour Shaoud, Benny Gantz représente aujourd'hui la seule alternative crédible à Bibi.
C'est une personne droite, honnête, qui veut vraiment le mieux pour ce pays. Et je crois que Bibi a déjà fait assez pour le partir.
Netanyahou n'est pas le messie, a dit Benny Gantz, largement applaudi par ses militants.
Valérie Crova. De l'autre côté de la frontière, en Jordanie, l'Agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens au Moyen-Orient va pouvoir poursuivre son action. Cette année marque la fin de la crise financière pour l'UNRWA. L'an dernier, les États-Unis avaient cessé de contribuer au budget de l'organisation, un coup dur. L'agence poursuit donc sa mission, notamment auprès des enfants, comme a tenu à le rappeler le secrétaire général des Nations Unies en visite hier en Jordanie. Reportage à l'école primaire du camp de Baqa de Jérôme Boruzovski.
Je suis un grand garçon, mais il m'arrive de pleurer.
Il est assis à la même table que les écoliers. Le secrétaire général des Nations Unies participe avec des petits réfugiés palestiniens à un exercice sur l'égalité entre les filles et les garçons.
Pleurer, c'est quelque chose de très normal pour les hommes et les femmes, pour les garçons et les filles.
En participant à cette activité sur l'égalité entre les sexes, le secrétaire général des Nations Unies vient rappeler l'importance de la mission éducative et de pacification de l'UNRWA. L'agence soutient plus de 700 écoles au Moyen-Orient.
530 000 enfants réfugiés palestiniens apprennent la démocratie et la tolérance. Ces écoles ne peuvent pas fermer. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'ici, en Jordanie, l'UNRWA ne puisse pas mener à bien ses programmes de santé et d'éducation ? Cela aurait un impact dévastateur dans un pays qui a souffert de nombreux facteurs extérieurs.
L'an dernier, le déficit budgétaire de l'UNRWA avait atteint plus de 400 millions de dollars suite au retrait des financements américains. Les écoles avaient ouvert à la rentrée de septembre dernier, mais sans assurance de pouvoir fonctionner plus de 2 mois. Cette année, le déficit est 2 fois moins important et les écoles resteront ouvertes jusqu'à l'été au moins. L'UNRWA parvient donc à maintenir ses activités sans les contributions de Washington. Antonio Guterres.
Si nous n'avons pas ce soutien des États-Unis, nous ne renoncerons pas. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour trouver d'autres sources de financement.
De nombreux autres pays ont d'ailleurs contribué cette année au budget de l'UNRWA. L'Arabie Saoudite, le Japon, l'Afghanistan, l'Indonésie. L'Union européenne, de son côté, a promis en février dernier de verser 82 millions de dollars à l'UNRWA.
En Turquie, le président Erdogan demande un recompte des votes à Istanbul après les élections municipales du 31 mars. Les résultats primaires de l'élection de dimanche dernier ont accordé d'une courte tête la victoire au candidat du CHP, le Parti républicain du peuple, opposition laïque, Ekrem İmamoğlu. On veut que tout le système change. Des milliers d'Algériens ou de Français d'origine algérienne une nouvelle fois dans la rue à Paris. Ils réclament un vrai changement du régime. Quelques jours après la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, qui pour remplacer l'ancien président qui a remis sa démission. En France, les Algériens attendent surtout que l'armée ne se mêle pas de la construction du nouveau régime. Steven Goyer.
Sur la place de la République, ils sont plusieurs milliers, drapeaux algériens sur les épaules, à réclamer le départ des cadres du système Bouteflika.
On ne construit pas un nouveau navire avec des vieilles planches.
Visait notamment le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel et le Premier ministre Nourdine Bedoui. Un nom revient aussi, celui de Gaïd Salah, le chef d'état-major algérien. Après avoir précipité la chute d'Abdelaziz Bouteflika, le militaire a vu ses pouvoirs se renforcer, mais lui aussi doit s'en aller. C'est le message que Nabil a voulu inscrire sur sa pancarte.
Ouais, j'ai marqué Gaïd Salah, ne crie pas victoire, tu fais partie du Nahaouga. Nahaouga, ça veut dire on les enlève tous. On veut juste que ces vieux briscards de la politique, de l'armée qui ont fait leur temps, qu'ils se mettent de côté. C'est pour ça qu'on est là.
Pour beaucoup, l'armée n'a pas son mot à dire dans la construction du futur politique de l'Algérie. Pour Nassera, par exemple, le prochain régime doit être civil et ne surtout pas tomber dans un scénario à l'égyptienne.
Quand l'armée a pris en main l'Algérie en 92, on a vu ce que ça a donné. 200 000 morts. L'Algérie, c'est une république, ce n'est pas une caserne. C'est clair, qu'est-ce qu'on veut de plus? Et s'ils veulent faire le scénario de Sisi, non, on n'en veut pas. On ne veut pas un scénario militaire.
Les Algériens mobilisés à Paris réclament désormais au plus vite des élections et une nouvelle constitution, sans que les militaires ne viennent interférer dans l'organisation.
En Algérie, le Parlement doit se réunir mardi pour nommer un président par intérim. Carole Ghosn, de retour en France, l'épouse de Carlos Ghosn, dit se sentir en danger au Japon. Le parquet de Tokyo a demandé au juge d'auditionner également Carole Ghosn après la nouvelle arrestation de son mari pour des soupçons d'enrichissement personnel au détriment de Nissan. Selon la chaîne de télé japonaise NHK, les procureurs soupçonnent Carlos Ghosn d'avoir fait transiter une partie des sommes qu'il aurait détournées via une société dont sa femme est l'une des dirigeantes. Près de 2/3 du chiffre d'affaires des 5 géants américains du numérique ne seront pas couverts par la taxe GAFA. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisation altermondialiste ATTAC juge le dispositif proposé par le gouvernement français insuffisant. La taxe GAFA porte mal son nom car elle ne concerne que le chiffre d'affaires numérique de ces sociétés, explique ATTAC dans son rapport. Rapport publié alors que le projet de loi porté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit être examiné demain à l'Assemblée nationale. Les chaînes de restauration rapide, les fast-food, à nouveau dans les viseurs du ministère de la Transition écologique. Plusieurs chaînes de restauration rapide comme Domino's ou encore Subway n'ont pas proposé de plan de mise en conformité pour trier leurs déchets dans les temps. Fin janvier, Brune Poirson avait convoqué les patrons de ces chaînes pour leur rappeler leur obligation réglementaire en matière de gestion de déchets. Elle leur avait demandé de lui envoyer un plan concret d'ici la fin du mois de mars. Le temps, lundi, il sera marqué par un ciel gris et nuageux sur tout le pays, le plus souvent accompagné de pluie. Le matin, les températures iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 12 à 17 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 18 degrés dans le sud-est.